Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
La bonne réponse.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est une nouvelle semaine d'Instant M qui redémarre.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
C'est l'histoire d'un garçon qui a vécu sa transition sous l'œil d'une caméra, geste militant, geste pédagogique, geste intime, paradoxalement, puisque médiatisé, mais le regard sur soi et le regard des autres sont partie constituante de l'identité. C'est l'histoire d'un homme avec un vagin, lesbienne jusqu'au bout des ongles et féministe radicale. C'est l'histoire d'une personne trans partie à la rencontre d'autres personnes trans, intersexes ou non-binaires, bien décidées à montrer la violence et la fragilité de ses parcours éminemment complexe et surtout pluriel. C'est l'histoire d'un acteur qui joue à fictionner la réalité. C'est l'histoire d'un individu qui, grâce aux hormones notamment, a maintenant l'allure d'un mec hétéro. Ça l'agace, ça l'amuse aussi. Comme si pour la première fois de son histoire, il pouvait témoigner de l'autre côté du miroir.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Mais est-ce que t'es opérée?
pour ton information, je te le dis parce que c'est bon, là c'est, ça va, on est entre nous, c'est cool, ouais. Tu vois, mais ça se fait vraiment pas trop de demander aux personnes trans, oui, si elles sont opérées. Ouais, c'est hyper intrusif.
Bonjour Océan.
Bonjour.
Infiltré, c'est le titre de cette saga documentaire en 12 petits épisodes.
En infiltré, 12 petits épisodes,
je dis, parce qu'il dure entre 17 et 21 minutes, donc ouais, ça se regarde très rapidement, et puis surtout on peut piocher, oui, parce que c'est plein de thématiques sociétales dans lesquelles on peut aller chercher. L'infiltration est un outil journalistique vieux comme le journalisme d'enquête. Une enquête, c'est précisément ce que vous proposez, sur toutes les facettes de la transidentité. Immense différence néanmoins, Océan, avec l'infiltration classique. C'est-à-dire que un journaliste en infiltration, il joue un rôle, mmh, et ensuite, il cesse de jouer son rôle à la fin de l'enquête. Vous ne jouez pas un rôle.
Ah non, je joue pas un rôle. Après, quand en infiltré, c'est un peu pour dire que on se retrouve, nous, les personnes trans, non binaires, intersexes, un peu en infiltré dans le monde dominant, je dirais, dans le monde cisgenre, dans le monde dyadique, qu'il faudrait employer aussi comme terme, et dans le monde binaire. C'est-à-dire que, en effet, quand moi je rentre dans une boulangerie aujourd'hui, on me dit bonjour monsieur sans hésiter,
ouais,
et c'est rigolo en fait parce qu'on m'a pas toujours dit bonjour monsieur,
non,
donc forcément je le reçois différemment qu'un homme cisgenre.
C'est ça. Alors, vous allez à la rencontre de plusieurs personnes trans. Et écoutez ce témoignage, parce qu'il va vraiment faire comprendre comment on passe de l'autre côté du miroir et comment, d'un seul coup, on change de point de vue en comprenant comment les autres changent de point de vue sur vous-même.
Je dis pas que t'as pas de regard quand t'es une femme noire, hein, si.
Enfin, mais voilà.
Mais différent, ouais. Ça va être plus être le regard des mecs cis. Plus particulièrement, tu sais,
sexualisé.
Ouais, voilà, très sexualisé et tout. Quand tu bascules carrément de l'autre côté, en mode, tu rentres du coup dans les critères mec noir, t'as le regard vraiment de méfiance des femmes. Dans les magasins, on va plus te suivre et tout. Et les contre-policiers, ouais, aussi, beaucoup plus. Par exemple, quelqu'un qui va me fixer lentement, longuement dans le métro, je vais pas me dire il me fixe parce que je suis noir. Je vais me dire il me fixe parce qu'il sait que je suis trans.
Là, il y a plus, évidemment, que la question de la transidentité. Il y a la question de la couleur de la peau.
Oui.
Et une femme noire, forcément, elle est hypersexualisée. Mmh. Un homme noir, évidemment, il y a un petit côté voyou, danger, mmh, contrôle policier, contrôle aux faciès.
Oui.
Il n'empêche, ça raconte bien cette façon de passer de l'autre côté du miroir.
Oui, en fait, ce que je voulais montrer, justement, avec toute la diversité de ces parcours, c'est que selon, justement, les autres oppressions éventuelles qu'on peut subir, notre passing, justement, va avoir lieu différemment. Le passing, c'est donc le fait de passer pour cis. Moi, en tant que blanc bourgeois, dès que j'ai un passing, je suis vu comme un homme blanc. En plus, j'ai un look plutôt hétéro, donc alors vraiment comme quelqu'un qui a à peu près tous les privilèges. Et du coup, je suis traité différemment. Alors que, justement, un homme noir qui fait une transition, c'est exactement ça. Il va tout d'un coup avoir peur, à raison, de vivre des violences policières.
Cis-passing, cis-genring,
cis-genre.
Un homme cis, une femme cis. Voilà un vocabulaire que vous utilisez spontanément, vous et vos interlocuteurs, oui, au travers des 12 épisodes, et qui n'est pas forcément compris, que moi je ne connaissais pas et que je maîtrise mal. C'est volontaire de l'utiliser, parce que pour vous, les mots sont déterminants.
Les mots sont déterminants, les mots sont politiques, le vocabulaire est politique. Dire un mec, parce que ça sous-entendrait en fait un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel, c'est ce qu'on va dire, alors qu'on va dire un PD, on va dire une grosse, on va dire... Pourquoi en fait ce serait toujours des personnes qui sont entre guillemets minorisées qu'on déterminerait? Il faut aussi nommer les dominants, il faut aussi nommer ce qu'on appelle la norme. C'est-à-dire que c'est en fait extrêmement simple. Il y a un mot à apprendre, je dirais, c'est le mot cisgenre. Le mot cisgenre, il vient de dire, c'est on est face à quelqu'un qui n'est pas transgenre, c'est le contraire de transgenre, et qui est en adéquation avec son genre assigné à la naissance. Donc vous, vous êtes cisgenre, enfin à ma connaissance, et beaucoup de gens sont cisgenres. Mais en fait, ne pas dire cisgenre, c'est venir sous-entendre que nous, on serait pas normaux, ou qu'on serait pas, on mériterait pas d'être considérés vraiment
j'aime
comme
bien
des hommes.
Le vous, vraiment êtes, vous, comme... vous êtes cisgenre à ma connaissance, parce que effectivement, quand
j'en
on a
rien,
vu, voilà, quand on
j'en
a
sais
vu.
Rien. Peut-être que vous allez faire votre coming out trans, et qu'en fait, vous êtes un mec trans, c'est vraiment welcome si c'est le cas. Je vous souhaite la
quand
bienvenue.
On a vu vos 12 épisodes. On ne sait plus à qui on parle, en effet.
Tu vois, ma culture est queen, je traîne encore que dans des milieux queer féministes, j'ai aucun pote homme cis hétéro, enfin je peux pas quitter mon identité queen pour être hétéro quoi. J'ai envie de qu'on sache que je suis trans moi, si je pouvais me le faire tatouer.
Mais ça te pousse,
je m'app direct, j'ai pas envie de passer pour un mec cis moi. J'avais besoin de masculiniser mon visage, c'est juste ça. Mon opération des seins par exemple, je vais l'annuler parce que je me sens bien avec mes seins. Mais comme j'ai pas de représentation de mec trans arabe avec ses seins et fier d'avoir ses seins et de garder son identité queen, bah du coup je fais quoi enfin.
Et là aussi, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage, Océan. Beaucoup de choses, vraiment,
qui sont dites. En fait, c'était important pour moi de montrer qu'il n'y a pas qu'un parcours trans. Parce que beaucoup de gens ont vu ma saison 1. Et après, ils étaient là genre, ah, c'est donc ça être trans. Là, ah non. Alors vraiment, moi, je ne suis pas représentatif. Forcément, j'ai beaucoup de privilèges, en effet, du fait d'être blanc, d'être bourgeois, d'avoir plus de 40 ans, ce qui permet de faire une transition sans être matériellement impacté aussi. Et sans, si je veux dire, si ma mère, avec qui je m'engueule à ce moment-là, m'avait foutu dehors et que j'avais eu 18 ans, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Ouais. Donc là, c'était important de vraiment pour moi de montrer la diversité des parcours et de toujours rappeler qu'il y a autant de transidentités que de personnes. Il n'y a pas une façon d'être trans. Il y a des personnes qui font des opérations, d'autres qui n'en font pas. Il y a des personnes qui prennent des hormones, d'autres pas. Enfin, et ça me tenait à cœur de
toutes
montrer ma communauté.
Toutes ces personnes disent manquer de modèle.
Exactement, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette saison 2, pour que des jeunes, par exemple, comme le dit Noam, qu'un jeune trans arabe qui n'a pas forcément envie de faire de mastectomie puisse se dire ah bah oui, en fait, c'est possible, en fait, je ne suis pas obligé de faire cette opération si je n'ai pas envie de la faire. Donc, que des personnes grosses puissent se voir, que des personnes intersexes aussi puissent se voir, parce qu'il y a vraiment très très peu de représentation de personnes intersexes, et etc. De personnes en fauteuil, par exemple, handicapées, je ne crois pas qu'on ait, en tout cas, sur le service public, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un homme trans en fauteuil, et je trouve que c'est très riche son témoignage, David. Enfin voilà, en fait, tous les témoignages sont passionnants, et même moi j'ai appris des choses parce que moi je suis pas concerné, je suis pas racisé, je suis pas gros, je suis pas en fauteuil, enfin voilà, j'ai pas fait de prison, voilà. Donc, et où j'ai pas fait d'enfant, parce que voilà, aussi il y a le témoignage de Ali qui a porté son enfant alors qu'il avait déjà changé ses papiers, fait sa mastectomie et tout, et c'est un très très beau témoignage, je trouve. Enfin voilà, donc il y a, je pense que c'est assez riche, il y a un peu un thème par épisode, donc c'est vrai qu'on peut aussi se dire, ah tiens, qu'est-ce qui m'intéresse, je vais aller voir que celui-là, on est obligé de tout regarder si on n'a pas envie de passer 4 heures.
Écoutez une conversation rejouée avec Ludivine Sagnier qui on aurait proposé un rôle de personne trans dans une série. Voilà. Écoutez ce que ça enclenche entre vous comme conversation.
Moi, je suis une petite bourgeoise de la banlieue parisienne. Ça veut dire que je peux pas jouer une aristocrate?
Mais c'est prendre la parole, c'est une prise de parole, une prise de conscience.
Ou je peux pas jouer une paysanne parce que c'est pas ma classe? Mais dans ce cas-là, je joue quoi, moi, la mère de famille, hétéro? Je vais me faire chier, je change de métier dans ces cas-là.
Elle a cette chance de faire ce personnage-là. D'abord, elle est comédienne, c'est génial. C'est un rôle qui va être génial. Et c'est aussi une prise de parole. Et Ludy, elle a énormément de gens qui la suivent, énormément de gens qui l'aiment. Donc, elle va frapper un grand coup aussi. Et de dire, je défends ce personnage trans, va peut-être faire rebuter beaucoup moins, peut-être.
Moi, je suis concernée par cette discrimination, je suis concernée par la transidentité. Et pour moi, là, et Mika, je te le dis franchement, il faut vraiment m'écouter, quoi.
des cris du cœur dans cette série. Il y a plein de cris du cœur qui viennent des personnages que vous interviewez, de vos interlocuteurs et de vos interlocutrices. Il y a des moments aussi où vous, vous mettez, vous tapez du poing sur la table d'une certaine manière, Océan.
Oui, bah, c'est vrai que moi, je suis un peu entre deux mondes, je dirais, puisque je suis d'un côté dans cette communauté, finalement, qui est beaucoup plus invisibilisée que moi. La plupart des personnes ont moins de médiatisation que moi.
Et parfois, vous en veulent, vous, et parfois, d'être médiatisé et visible.
Je peux complètement le comprendre, et c'est pour ça aussi que justement, moi, je suis d'accord avec, comme je ne fais pas les médias, c'est pas moi qui décide qui on va inviter. Si c'est toujours moi qui suis invité, c'est pas forcément un choix personnel. Après, pour autant, j'ai aussi envie justement de pouvoir donner de la visibilité aux autres. Et de l'autre côté, d'un monde très normatif finalement, où on me dit en gros c'est déjà bien s'il y a des trans, des rôles de trans dans les films, et puis c'est pas grave si c'est des
dans
personnes
cis
qui les jouent. Et moi, je rappelle que on n'est pas un déguisement. On a arrêté le blackface, par exemple. On a compris que c'était problématique des blancs qui jouent des noirs. De la même manière, nos identités, c'est pas des costumes, c'est pas des déguisements.
Et en même temps, c'est l'acteur qui parle. Et le propre de l'acteur est d'épouser un personnage, de se glisser dedans. Et vous, acteur, vous pourriez tout jouer comme Léa Seydoux, pourrait tout jouer comme Ludivine Sagnier, pourrait tout jouer
malheureusement. Malheureusement, je ne suis jamais appelé pour des rôles d'hommes cisgenres. Malheureusement, les personnes trans ne tournent quasiment pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un rapport de force. C'est-à-dire que en fait, nous, on a du mal à travailler partout. C'est-à-dire que les personnes trans sont discriminées sur le marché du travail, souvent décrochent même pendant leurs études parce qu'on respecte pas justement leur pronom, leur identité de genre. Et donc, c'est une population qui est extrêmement précarisée à cause de la transphobie systémique. Donc, à partir de là, qu'on vienne nous dire « mais tout le monde devrait pouvoir tout jouer », ok, mais dans ce cas-là, donnez-nous des rôles de personnes et trans et cis. Mais tant qu'il n'y a pas un
minimum d'égalité... Un acteur hollywoodien aussi glamour, aussi célèbre, aussi médiatisé que Wentworth Miller, qui a joué dans Prison Break et qui d'un seul coup annonce qu'il va cesser de jouer des rôles de mecs hétéros à l'écran parce qu'il est gay depuis toujours, qu'il a fait son coming out, ça c'était pas un secret, et qu'aujourd'hui, il ne veut plus jouer que des rôles qui sont conformes à son identité.
Moi je comprends complètement, et puis c'est surtout que je trouve que c'est plutôt la question, c'est le système de production, c'est-à-dire comment on fait appel à des acteurs et à des actrices, qui on décide d'appeler. Alors après, sur la question de l'orientation sexuelle, ça peut-être se discuter, même si en effet moi je trouverais ça mieux de, en tout cas, toujours prendre des gays et des lesbiennes pour jouer des gays et des lesbiennes, parce que c'est
moi je trouve ça complètement aberrant, totalement aberrant. Et en même temps, ce qui est passionnant chez Wentworth Miller, c'est que quelque part il fait aussi comprendre qu'aujourd'hui à Hollywood, combien d'acteurs hollywoodiens cachent leur homosexualité.
Mais c'est sûr, mais c'est surtout que lui, il peut se permettre, parce que justement, il a ce privilège de pouvoir choisir ses rôles. Mais combien d'acteurs ont été discriminés parce qu'ils étaient gays ou lesbiennes? Moi, je peux vous faire une liste de copines Gwyn qu'on n'a plus fait tourner parce que le réalisateur comprenait qu'il allait pas pouvoir la sauter, ou au moins dans sa tête. Enfin, je veux dire, il faut remettre les choses à leur place à un moment. C'est qui vit des discriminations, quoi. Donc, on vient nous dire, alors là, dans ce cas-là, on peut jouer que... Non, oui, mais en fait, moi, je trouve ça intéressant, même sur la question de la classe. Parce que si on... En effet, quand vous regardez...
c'est ce que vous dites à l'université. Pour prendre une prolo, on joue les assez doux qui est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche.
Oui, mais en fait, la question se pose. Donc, bien sûr, on doit pouvoir tout jouer, sauf qu'à un moment, on doit aussi faire attention à faire travailler des acteurs prolétaires, des acteurs qui viennent d'un milieu où ils ne sont pas nés...
Et pas que des fils et des filles d'eux.
Parce qu'en France, pardon, mais c'est quand même beaucoup ça, hein. Si on peut revenir sur l'actualité de la semaine, qui vient de faire un film à 16 piges. Enfin, je veux dire, non, mais à un moment, il n'y a pas de souci, hein, mais moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas s'il y a aussi des gens qui viennent de cité et qui viennent de la banlieue de Limoges qui peuvent faire des films. Hein,
c'est ça. Une visite chez le médecin, elle en dit long, cette visite chez le médecin.
Ouais. Est-ce que vous avez des pertes au niveau du gland?
Pardon. Non. Non, pas du tout. Pardon, c'est...
Ah bon, t'as pas des petits...
Non.
Ah ouais, pas d'ulcération, même au niveau d'ulcération, des petites douleurs, des petites rougeurs.
Non,
des petites...
non.
Ouais. D'accord.
T'as rien?
Non. Au niveau du prépuce non plus, au niveau des testicules non plus. On va voir ça.
On va regarder.
Vous êtes très belle en tout cas.
Ah là 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 là, on a mal pour elle, cette toubib. Elle sait pas, vous ne lui dites pas. Elle-même, en téléchargeant votre carte vitale, elle se pose une question, elle comprend bien qu'il y a une prise en charge qui est pas tout à fait commune et banale. Et vous la laissez s'embourber avec un ricanement qui met hyper mal à l'aise. Et derrière ça, vous dites oui, mais
Pourquoi est-ce que je suis sans cesse obligée de faire mon coming out?
En fait, cette situation m'est réellement arrivée. Là, on l'a remise en scène, mais franchement, au mot près, à part qu'il n'y avait pas Mika qui faisait des blagues lourdes dans la pièce, c'est-à-dire que je vais chez une médecin que je ne connais pas dans mon quartier parce que j'ai des aphtes dans la bouche, et je décide, puisque j'ai changé mes papiers, voilà, mon numéro de sécu est changé, etc., de ne pas lui dire que je suis trans. Pourquoi je décide de ne pas lui dire? Parce que on est extrêmement vulnérable quand on est face à des médecins qui ne sont pas formés, quand vous regardez les études de médecine, ne sont pas formés aux questions trans. Et souvent, ils vont tout ramener à ça, ou ils vont poser des questions hyper déplacées, ou enfin, ça peut vite partir en live. Donc, on a tendance à essayer parfois d'éviter de dire qu'on est trans, surtout quand on vient pour des aphtes dans la bouche. Sauf que là, elle part sur la piste d'une IST, donc elle me pose plein de questions sur mes organes génitaux, qui ne sont pas en fait ceux auxquels elle pense. Et moi, je suis pris dans mon mensonge, enfin, je ne sais plus comment m'en sortir, et je me retrouve extrêmement angoissée, en fait, et mal à l'aise. Donc là, j'ai refait cette scène de manière un peu plus comique, mais en fait.
Mais de toute façon, c'est ce que dit toute cette série Océan, c'est-à-dire que d'un côté il y a un grand confort à avoir avancé comme vous avez avancé vous dans votre transition, et en même temps il y a une espèce de fragilité permanente, de vulnérabilité permanente, c'est-à-dire que ce confort de la perception de l'autre, il s'écroule, il est plein de failles.
Oui, il s'écroule à la seconde où je suis perçue comme trans, en fait. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis toujours, les hommes trans, même blancs, même bourgeois, ne gagnent pas en privilège. Moi, je considère que j'ai perdu mon privilège 6, même si en effet je me fais plus emmerder dans la rue quand j'entre à 3h du mat, où j'ai moins peur de me faire violer. Enfin, la peur, remarquez, elle s'en va pas, c'est peut-être plus, j'ai moins de chance que ça m'arrive. Pour autant, à la seconde, ou si je suis dans un bar avec plein de mecs bourrés qui sont sympas avec moi, si jamais ils comprennent que je suis trans, alors la violence, elle revient tout aussi rapidement.
Donc, et alors, racontez, ça fait quoi d'être un mec au milieu des mecs? Parce que ça, vous en riez beaucoup.
Bah franchement, c'est chaud. Je vous le dis franchement, bon, le sexisme, je le vivais avant, donc je le connaissais déjà. Oui. Et c'est vrai que là, c'est ce que je dis dans l'épisode, hein, c'est un autre éclairage. Et en effet, je trouve que quand même, la base de la complicité de mecs qui se connaissent pas, qui se retrouvent entre eux, c'est vraiment de faire des blagues sur les meufs. Bah, franchement, pas du tout ok. Et donc, moi, ça me met dans des espèces d'angoisse, parfois. D'un coup, quand les mecs sont hyper sympas avec moi, je suis là, non, mais je veux pas que tu sois sympa avec moi.
Par ailleurs, ces films et ces deux séries documentaires Océan, c'est un miroir tendu à votre corps. Et là, pour le coup, vous prenez pas beaucoup soin de vous, au sens où, si, vous vous êtes beaucoup occupé de vous et de votre corps. Et en même temps, vous vous épargnez rien en vous filmant comme ça sur toutes les coutures, en mettant en scène vos complexes, en mettant en scène vos bourrelets. Tout le monde, enfin, je sais pas si vous imaginez à quel point, même quand on est cisgenre, hétéro, normé, blanche, bourgeoise, comme moi, etc., enfin, tout le monde a du mal avec son corps. Tout le monde a du mal avec son corps. Vous allez très très loin dans ce que vous vous imposez en termes de regard.
Bah, en fait, non. J'ai pas l'impression. C'est que j'avais envie de, enfin, comme toujours dans ce que je fais, d'être très honnête, très sincère, et justement de faire un petit peu un bilan. Tiens, maintenant que j'ai justement un cis-passing et tout, est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé aussi dans mon rapport à mon corps? Parce que les mecs cis, bah justement, ils se prennent moins la tête. Souvent, ils sont moins complexés parce qu'ils ont des injonctions moins fortes. Oh. Bah, sur le poids, c'est quand même un truc de ouf. Les meufs sont toutes, tout le temps au régime, tout le
temps
stressées.
Alors là, maintenant que vous allez pouvoir être dans le vestiaire avec les mecs, au milieu des mecs, faites parler les mecs sur ce que c'est que d'avoir des fesses, sur ce que c'est que d'avoir du ventre, sur... Franchement, je pense que vous allez tomber sur un océan de complexes.
En tout cas, ils ont pas, dès qu'ils sortent de chez eux, des magazines, des culs de meufs dans la rue. Enfin, je pense qu'on peut quand même être assez honnête sur les injonctions faites aux femmes d'être super bonnes, qui sont pas les mêmes que celles faites aux hommes. Et si vous regardez juste les acteurs français, pardon, mais on a combien de lardons qui sont payés des millions pour faire des rôles, alors que les meufs, si t'es pas méga bonne jusqu'à tes 70 piges, tu te fais dégager.
Merci beaucoup, Océan. En infiltré et à regarder à la demande, quand on veut, où on veut, comme on veut, parce que c'est sur France TV/, donc on peut vraiment piocher dans les épisodes. C'est évidemment totalement gratuit. Je précise qu'il y a 3 épisodes extrêmement durs, extrêmement beaux, extrêmement forts. Un sur un personnage intersexe, un autre sur le handicap et un troisième sur la prison. Oui. Merci beaucoup Océan et
merci
à bientôt.
À
bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Céline de Villers, et ce matin on s'intéresse aux pathologies du goût et de l'odorat. On appelle ça l'ageusie et l'anosmie. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez perdu le goût et ou l'odorat lié à une pathologie, à un accident, ou si c'est congénital comme l'un de nos invités, Alex Vizorek, qui sera avec nous dans quelques instants. 01 45 24 7000.